Place Info.
Bonsoir à la une, Emmanuel Macron qui répond à Noël Le Graët après ses propos polémiques sur France Info ce matin. Également, la GPA porte fermée, vous le verrez aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Sylvie Goulard entendue par la police et le retour du grand débat national du chef de l'État. C'est dans Les Informés avec Saveria Rojec, journaliste politique, avec Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice du site laruchemedia.com, avec Albert Zenou, rédacteur en chef du service politique du Figaro, et Romain Mouton, fondateur de l'agence RM Conseil. Bonsoir à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Ces propos ont provoqué une onde de choc. 8h40 sur France Info ce matin, Noël Le Graët, le patron de la Fédération française de football, se dit opposé à l'arrêt des matchs en cas de chant ou de banderoles homophobes.
Noël Le Graët, vous demandez désormais donc aux arbitres de ne plus arrêter les matchs en cas de chants ou de slogans homophobes dans les tribunes. Dès la prochaine journée.
On a bien compris.
Oui. Cette consigne va être respectée sur tous les terrains de Ligue 1, de Ligue 2.
J'espère. Vous savez, les méthodes de punir sans arrêt accentuent. Je l'ai remarqué. Je pense qu'il faut en parler, de ce qui est fait. Mais il faut agir dans les stades. Et considérer effectivement que le football est homophobe et peut être l'image... seulement d'homophobie en France, c'est quand même un peu fort de café. J'accepte pas. Que quelques spectateurs exagérés. Oui, j'accepte pas. On va faire en sorte que ça disparaisse, mais l'arrêt des matchs, c'est autre chose. Le jeu, c'est quelque chose de compliqué, de beau, quand on regarde, et pour quelques personne que je n'apprécie pas, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de banderole. C'est différent. Arrêter le match, non.
Voilà, il était important de réentendre ces propos sur la longueur pour pouvoir poser le débat qui va suivre. Mais voici tout d'abord la réponse d'Emmanuel Macron. Elle est venue tout à l'heure en marge d'un déplacement à Bonneuil-sur-Marne.
J'ai eu l'occasion de m'exprimer pour dire qu'on ne saurait accepter ce qui se passe. Et après, c'est le discernement de l'arbitre, c'est le rôle aussi évidemment de la Ligue avec les clubs. Voilà, la ministre est dans son rôle. Il faut maintenant que la Ligue, les clubs prennent leurs responsabilités, parlent à leurs supporters. Il ne faut pas édicter une règle fixe. On ne va pas se mettre à mettre des règles qui seraient comme des lois qui tombent. Sinon, je ne sais pas si vous êtes supporter de foot. Moi, je sais en tout cas comment j'organiserai les choses. Je ferai des insultes à 5 minutes de la fin d'un match que je suis en train de perdre. Bon, donc, il faut être intraitable sur le fond. Il faut que les discours de haine, qu'ils soient racistes ou homophobes, cessent. Ça suppose un engagement de toute la famille du football. Et donc, la ministre est dans son rôle en le demandant. Et je pense ensuite qu'il faut du pragmatisme et du bon sens. C'est à la Ligue et au club de le faire avec leurs associations de supporters. Et voilà, progressivement, qu'on améliore les choses. Il ne faut pas perdre de vue ce qui nous rassemble tous, ce qui est l'esprit de concorde et la pacification de tout ça.
Voilà donc la réponse d'Emmanuel Macron ce soir. Il y a quelques minutes, après ce déplacement de terrain, Yasmina Jaffar, comment qualifier la réponse du chef de l'État ?
Du pragmatisme et du bon sens. C'est vrai qu'il indique que...
Pragmatisme et bon sens, vous avez
oui,
dit. Hein.
Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est vrai que dans un premier temps, il renvoie chacun dans leur but en leur expliquant qu'ils doivent se débrouiller par un dialogue. Et en même temps, il dit que personnellement, et on sait qu'il est fervent amateur de foot, que lui, personnellement, ce qu'il ferait, c'est peut-être de siffler à la fin d'un match pour que ça s'arrête. Donc ça peut être manipulé, en effet, d'arrêter les matchs parce que les supporters comprennent très vite et ça date. Mais là, la phrase première de Noël Le Graët est absolument inacceptable. Et c'est intraitable et ça n'est pas normal de faire une hiérarchie entre les différentes... différentes hors-la-loi, parce que c'est totalement hors-la-loi, que ce soit le racisme ou l'homophobie. C'est absolument inacceptable.
Ça veut dire, Roger, qu'il est prudent, le chef de l'État ?
Prudent. Moi, ce que je retiens de son intervention, ce qu'on vient d'entendre, c'est quand il dit qu'il faut être intraitable sur le fond. Ça, c'est essentiel. Mais effectivement, il y a un côté en même temps, macronien, quand ensuite il développe et qu'il dit il faut pas une règle fixe, faut du dialogue, faut de la concertation. Mais je voudrais effectivement revenir à ce que vous avez dit. Il faut avant tout partir des propos de Noël Le Graët qui sont inouïs.
C'est pour ça que nous avons réentendu sur la longueur.
Qui sont inouïs, qui sont extrêmement dangereux. Il faut rappeler que l'homophobie en France aujourd'hui tue. Il y a 4 à 5 fois plus de suicides, de taux de suicide chez les homosexuels. Et que tout ce qui encourage ces comportements, ce climat, n'est plus acceptable. Personne ne dit que le foot est homophobe, comme le rappelait ce matin Noël Le Graët. Personne n'associe foot à homophobie. Mais néanmoins, force est de constater qu'il y a un climat qui est délétère et qui aujourd'hui n'est plus acceptable.
Ouais, alors je rappelle que nous sommes à une demi-heure du coup d'envoi, du coup de sifflet de la rencontre France-Andorre qualificative à l'Euro 2020. Albert Zenou, le chef de l'État, joue-t-il la prudence et l'apaisement ce soir ?
Bah, il joue plutôt l'apaisement. On ne peut que
On ne peut que critiquer les propos de Noël Le Graët ce matin. C'est vrai qu'on ne peut pas faire de hiérarchie entre des propos homophobes, des propos racistes. Les deux choses sont insupportables. Après, la difficulté, c'est dans le pragmatisme, comment faire quand des supporters se servent systématiquement ou très fréquemment de propos, de banderoles pour faire arrêter un match. Donc, est-ce que ça risque de devenir un jeu, ça risque de devenir une habitude. Alors là, le président arrive avec un, il donne raison un peu à Noël Le Graët, il donne raison à sa ministre, il essaye de composer entre les deux en disant que il faut aller un peu plus loin, faut discuter, enfin faut toujours discuter. Donc, maintenant, est-ce que c'est la position la plus tenable? Je ne sais pas. Donc, il y a un vrai souci avec cette dérive chez les supporters et qu'il faut cesser de toute façon.
La fin de ce premier tour de table avec vous, Romain Mouton. On a entendu Le Graët démission aujourd'hui. Hein.
Oui, c'est tout à fait compréhensible et je pense que Noël Le Graët doit démissionner très rapidement. On est dans le pays des champions du monde. On est dans le pays qui va accueillir les Jeux Olympiques. On est dans un pays où l'homophobie est sanctionnée par la loi, interdite. Et donc, Noël Le Graët est hors sol. Et quand on va même...
Hors sol.
Et quand on va même écouter totalement sa déclaration, il va même jusqu'à dire, oui, c'est vrai que les stades sont ouverts à toutes les catégories sociales. Il y a aussi des classes populaires. Il va même jusqu'à faire le lien entre classe populaire et homophobie. Donc, on voit que ce monsieur est complètement perdu sur ses pensées et qu'il n'a même plus le sens des réalités. Donc, Noël Le Graët doit démissionner. Emmanuel Macron est très tiède dans sa réponse et je regrette qu'il n'aille pas beaucoup plus loin, à la fois dans sa condamnation, jusqu'à même en termes de communication, de rappeler que lui aussi est capable d'insulter à la fin de lui faire des insultes à 5 minutes avant la fin du match. Je trouve que dans les circonstances actuelles, c'est très maladroit. Très maladroit de la part du président de la République que lui aussi pourrait avoir envie d'insulter à la fin du match.
Apparemment, vous n'êtes pas tous d'accord. On va revenir là-dessus. Je rappelle qu'au début de son propos, le chef de l'État évoque la ministre. Il s'agit de Roxana Maracineanu, dont nous allons entendre le propos dans un instant. Mais pour l'heure, 20h10 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules Dequisse.
Et justement, Noël Le Graët doit prendre sa part de responsabilité, explique Roxana Maracineanu. Elle attend du président de la Fédération Française de Football qu'il s'investisse davantage dans la lutte contre l'homophobie. Et ce matin sur France Info, il a en effet pris une position tout autre en se prononçant contre l'arrêt des matchs en cas de chant homophobe. En revanche, il est pour quand il y a des cris racistes, un distinguo erroné d'après la ministre des Sports. Un élément de plus dans l'enquête sur la mort de Steve Maya Canisso à Nantes. Son téléphone a borné une dernière fois au moment de l'intervention policière sur les quais de la Loire. C'était à 4h33 du matin, ensuite plus rien. L'avocate de la famille rappelle ce soir que les proches de Steve sont convaincus de la concomitance de sa chute dans le fleuve et de l'intervention policière. C'était en juin dernier, le soir de la fête de la musique. Une journée riche en émotions pour Sylvie Goulard. L'ancienne ministre des Armées est nommée aujourd'hui commissaire européenne au marché intérieur. Elle a aussi été entendue à Nanterre par les policiers dans le cadre de l'affaire des emplois fictifs du MoDem. Une affaire qui lui a coûté son poste au début du quinquennat. Le parti de François Bayrou est soupçonné d'avoir utilisé des crédits européens pour payer des assistants au service du MoDem et non à leur tâche auprès d'eurodéputés. Apple va lancer sa plateforme de streaming vidéo le 1er novembre prochain. Elle s'appellera Apple TV+. Elle sera disponible dans une centaine de pays au prix de $5 par mois. C'est presque deux fois moins que le géant Netflix qu'elle espère concurrencer. Et puis dans une grosse demi-heure, l'équipe de France de football affronte Andorre au Stade de France. Match qualificatif pour l'Euro 2020. Les Bleus sont largement favoris, même avec plusieurs absents. Une victoire, ils conserveraient la première place de leur groupe.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Comme promis, voici donc le propos de Roxana Maracineanu, la ministre des Sports. C'était dans l'après-midi en réponse évidemment aux propos, à cette déclaration de Noël Le Graët.
Mon rôle de ministre, comme son rôle de président d'une instance qui a une délégation de service public, c'est de veiller à la protection de tous nos citoyens, y compris les homosexuels dans notre société. L'homophobie, au même titre que le racisme, est punie par la loi. Il y a des sanctions pénales qui peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Donc effectivement, la position qu'a pris Noël Le Graët en faisant la différenciation entre homophobie et racisme, elle est erronée, on peut le dire. On l'incite fortement à prendre sa part de responsabilité dans cette lutte contre les discriminations de manière manière générale, puisque ce qu'on a vu dans les champs homophobes, eh bien, ça se passe dans un stade de football.
Alors on entend bien les propos, on va dire le raisonnement de la ministre des Sports, mais nous sommes loin, Savaria Rojec, du, tenez, prenez au hasard, Marlène Schiappa qui déclarait la prochaine fois, je quitterai le stade, quand on lui parlait de l'homophobie dans les enceintes sportives.
Néanmoins, elle est quand même, elle va plus loin que justement le président de la République ce soir, et je trouve qu'elle va plus loin à raison. Il y a une autre phrase qu'on n'a pas entendue qu'elle a dite cet après-midi, elle dit, si le patron du Roxana Maracineanu, elle dit, si le patron du foot peut dire ce genre de choses, le travail ne fait que commencer. Et elle a complètement...
Oui, personne ne parle d'exclusion, de sanctions ou de... Voilà, il n'y a pas d'explication de gravure avec Noël Le Graët.
Emmanuel Macron dit, il faut néanmoins être intraitable sur le fond. Mais effectivement, personne n'appelle à sa démission ce soir. Mais je trouve que vraiment, ce qu'elle dit cet après-midi est importante. Quand elle dit, le travail ne fait que commencer, si le propre patron du foot peut tenir ce genre de propos, il y a un vrai problème au sein de la fédération sur ces questions. Et effectivement, il y a un énorme travail de sensibilisation qui ne fait que commencer.
Et justement, c'est en disant...
Quand le président dit qu'il faut être pragmatique...
C'est le pragmatisme. Le président de la République a sa position de président de la République et il explique bien que c'est à la ministre de réagir et elle a très bien réagi. Marlène Schiappa, comme d'habitude, en fait beaucoup, mais pourquoi pas sur ce rôle-là, sur cette idée-là, entendons toutes les voix qui sont en désaccord, mais c'est normal qu'on dise de cette manière-là, le travail ne fait que commencer parce que c'est la réalité et qu'il y a un énorme travail de sensibilisation et de dialogue plutôt que de sanctions. Renvoyer Monsieur Le Graët dans ses pénates, très bien, mais ça ne changera pas la donne. Ce qu'il faut, c'est vraiment faire évoluer et ne plus entendre jamais. C'est normal, c'est du folklore, mais c'est normal entre nous parlons comme ça. Tout est normal finalement. Le racisme, c'est grave, en effet. On ne siffle plus les Noirs quand ils touchent une balle parce qu'on a fini par comprendre. Et maintenant, on s'attaque à l'homophobie. C'est 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende et c'est de la grande pédagogie qu'il faut commencer maintenant.
Quand vous dites folklore, vous faites allusion, référence à Nathalie Baudelatour, hein, qui est la présidente de la Ligue de football professionnel qui avait déclaré en mars dernier que cela fait partie du folklore du football. Albert Zenou, finalement, il y a quand même une consigne qui court, celle de Noël Le Graët, qui a été donnée aux arbitres, au fond, de ne plus suspendre les matchs. Est-ce qu'il faut interrompre cette consigne, concrètement ?
Sans doute. Il faut revenir. Alors, je reviens sur les propos du président. Donc,
du chef de l'État.
Du chef de l'État, donc du président de la République. Il d'une certaine manière, ce que je disais tout à l'heure, il donne un peu crédit à Noël Le Graët. Enfin, quand il parle de pragmatisme, c'est il faut arrêter les matchs, mais pas tous les matchs, quoi. Enfin, donc il faut aller.
Il donne pas crédit à Noël Le Graët. Que vous lui reprochez de pas aller assez loin, mais je pense que c'est pas son rôle.
C'est exactement son rôle.
Et c'est le rôle de la ministre des Sports qui s'est exprimé.
Non, je dis simplement, c'est que il dit à un moment que il faut faire preuve de pragmatisme et que on n'arrête pas tous les matchs. En gros, c'est un peu ça. Donc, il faut savoir jusqu'où aller trop loin. Donc, on ne peut pas accepter l'homophobie, mais est-ce qu'on doit arrêter tous les matchs ? Alors, il pose la question.
Attendez. On va écouter un document. Je vous propose un document. Cela se passe le 7 juillet. C'était l'été de cet été. Emmanuel Macron, le chef de l'État, lors d'une émission spéciale sur France Info, au micro de Jacques Vendroux et Jérôme Cadet, s'était dit justement favorable à l'arrêt des matchs en cas de manifestation raciste ou homophobe.
Je pense qu'on ne peut pas s'habituer à l'homophobie et au racisme sous prétexte qu'on serait dans un stade de football. Il n'y a aucun sport dont l'ADN, dont les racines, dont l'esprit, c'est le discours de haine. Et c'est la responsabilité des clubs et avec eux...
Des clubs ?
Non, mais quand on arrête, ça pénalise les clubs. Mais enfin, les clubs et avec eux, de leurs supporters, de rentrer dans maintenant... Ce qui est l'art d'être supporter, ce qu'on doit être quand on est supporter.
Donc là, il faut des consignes plus claires pour les arbitres, pour qu'ils arrêtent les matchs dans ces cas-là.
Totalement favorable. Il faut une mobilisation de tout le monde. Des arbitres, des présidents, des entraîneurs, des joueurs.
Romain Mouton, oui, le message est similaire sur la mobilisation de tous, mais il est clair, le chef de l'État, à ce moment-là, nous sommes donc le 7 juillet dernier, favorable à l'arrêt des matchs.
Le 7 juillet, il était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair que ce soir. Alors après, il a peut-être absolument pas changé de position, mais c'est sûr qu'en termes de com, ce qu'il a dit, les mots ont un sens. Quand il rappelle que lui aussi peut insulter et quand il dit que c'est à la carte, il y a quand même un sujet. Et je pense qu'on peut même aller encore plus loin. C'est-à-dire que oui, il faut arrêter les matchs, mais il faut en plus de ça sanctionner les clubs et interdire d'accès aux supporters au match suivant. C'est parce qu'à partir du moment où chaque
club va être responsabilisé. Il y a aussi un sujet, certes, de la fédération, mais de responsabilisation des clubs pour faire de la pédagogie auprès de leurs supporters. Et donc, le travail se fait à tous les échelons. Quand on voit ce qui se fait dans toutes les ligues, dans les autres pays, notamment en Angleterre, ils vont beaucoup plus loin. Ils interdisent les matchs, ils interdisent les clubs de supporters, ils ont créé un site dédié, ils font de l'éducation des enfants sur ces sujets-là. Donc, c'est un sujet pédagogique, au-delà même de la personne de Noël Le Graët, qui est en fait la face immergée de l'iceberg.
Vous dites au-delà de la personnalité de Noël Le Graët, mais le président de la 3F est-il, au fond, intouchable, champion du monde, proche de Didier Deschamps, très populaire au sein des clubs, de la fédération, au fond, Albert Zenou, très tranquille. Il est intouchable.
Personne. Il est intouchable jusqu'au jour où on le destitue. Ouais, pour l'instant, effectivement, ses statuts le rendent intouchable. Il est maître de la fédération. Il n'est pas maître des clubs. Hein. C'est la ligue professionnelle. Oui. Hein, donc, mais il est impliqué quand même. Il y a une dichotomie, une gouvernance à deux. Mais les clubs professionnels, c'est la LFP et la 3F. Mais est-ce que pour autant, on réglerait le problème en destituant Noël Le Graët?
Non, il faut aller
un peu plus loin.
Non. Ça va y arriver.
Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un énorme travail de sensibilisation à faire, pas uniquement à la tête de la fédération, mais au sein des clubs, au sein de la ligue. Il faut quand même souligner que la fédération aujourd'hui, elle a tempéré les propos en expliquant que c'était une maladresse. Il faut aussi expliquer que cet arrêt des matchs, il est très mal vécu dans le milieu. Il est très mal vécu chez les supporters. Et puis, il faut aussi ajouter qu'il y a certains supporters aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, qui instrumentalisent cet arrêt des matchs.
On peut manipuler. Voilà. C'est ce que veut dire le président de la République.
Je pense que là, c'est la différence entre les propos qu'il a tenus le 7 juillet et ceux d'aujourd'hui.
Oui.
C'est qu'entre-temps, il y a eu un peu l'expérience des matchs arrêtés
Absolument.
Oui,
systématiquement ou quasi.
Enfin, on ne peut pas jouer ce jeu-là parce que ça serait facile de manipuler ensuite les matchs.
Allez, nous marquons une pause à 20h20 sur France Info avec le rappel de l'info et Jules Dequis.
La ministre de la Justice le répète, la France va maintenir l'interdiction de la gestation pour autrui. Il n'est pas question de la légaliser, insiste Nicole Belloubet, alors que la loi de bioéthique arrive au Parlement. Mais France Info vous le révèle depuis ce matin, le gouvernement veut faire reconnaître la filiation des enfants nés de mères porteuses à l'étranger. Une circulaire en ce sens sera rédigée à la fin du mois. Les urgentistes restent mécontents après les annonces de la ministre de la Santé hier. Ils appellent tous leurs collègues du secteur hospitalier à rejoindre leur mobilisation. Leur grève, qui dure depuis plus de 6 mois, va continuer. D'après eux, le plan de 750 millions d'euros annoncé ne répond en rien à la réalité du terrain. Eux demandent toujours des réouvertures de lits, des embauches et une augmentation de 300 euros net mensuels. La liste des victimes présumées du chirurgien de Jonzac en Charente-Maritime s'agrandit considérablement. Une soixantaine de plaintes s'ajoutent à ce dossier ouvert pour viol et agression sexuelle. Le médecin à la retraite aurait abusé des jeunes filles mineures sur presque 3 décennies. Il consignait leur nom dans un carnet retrouvé par les enquêteurs. Un premier procès aura lieu ces prochains mois pour des faits commis sur 4 victimes présumées. L'annexion d'un pan de la Cisjordanie entraînerait toute la région dans la violence, d'après le gouvernement jordanien. Beaucoup d'acteurs au Moyen-Orient font part de leur inquiétude ce soir après les déclarations du Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou promet d'annexer la vallée du Jourdain en Cisjordanie occupée s'il remporte les élections législatives très disputées dans une semaine.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Comment sortir de cette polémique? Comment faire baisser la pression? Faut-il légiférer? Question posée tout à l'heure à Sacha Houlier, député de la République en marge de la Vienne et co-rapporteur de la mission parlementaire sur le supporterisme et les interdictions de stade à l'Assemblée nationale. Il était l'invité du 18-50 de France Info.
Tous les acteurs sont responsables. La Ligue, la Fédération de football qui gère le sport amateur, les clubs, les associations de supporters, tout le monde doit pouvoir se réunir et trouver des solutions collectives à la façon dont on fait reculer.
Chaque fois on dit ça et personne ne parle.
Précisément parce que les cadres n'existent pas. Renvoyer les uns et les autres sur une vision caricaturale en disant c'est la faute des supporters, c'est la faute des pouvoirs publics, c'est la faute des clubs, c'est la faute de la Fédé, trouver la faute de quelqu'un, ça n'a jamais permis d'apporter une solution.
Ça va dire, Jacques, cela manque d'un cadre pour, au fond, discuter de tout ça.
Je suis pas certaine, parce que la législation, elle existe déjà. Le racisme, l'homophobie sont déjà réprimés par la loi. Ce sont des délits. Donc le cadre est déjà là. Après, effectivement, il faut peut-être ce qu'on a dit, c'est-à-dire du dialogue, de la concertation, tout un travail d'écoute et d'éducation au sein des clubs.
Oui. Éviter de se renvoyer.
Mais pas forcément une nouvelle loi.
Oui, exactement.
Voilà. Parce que la législation existe déjà.
L'amende et la prison, que,
absolument,
qui sont voilà, loué à ce genre de délit, et évidemment apporter, non pas arrêter de se balancer la patate chaude, comme il a très bien dit Sacha Houlié, c'est-à-dire qu'à bout d'un moment, il faut prendre ses responsabilités, tout le monde doit prendre ses responsabilités, et vous l'avez très bien dit en rebondissant tout à l'heure face aux députés, et au ministre, c'est plus du tout possible de dire nous allons voir ça demain, ça va passer, ça passera avec l'été. Non, ça ne passe pas avec l'été, là c'est insupportable.
Romain Mouton, vous n'avez pas la sensation que les décideurs politiques, on a entendu le chef de l'État, la ministre et autres, marchent sur des œufs après tout, la France sort de longs mois de gilets jaunes, de conflits, peut-être ne pas forcément exciter, agacer l'opinion publique avec des questions sociétales qui vont trop loin, que jusque dans les enceintes de stades de football.
Enfin là, on n'est pas sur des questions sociétales, on est juste sur le vivre ensemble de base. C'est-à-dire que condamner le racisme, condamner l'homophobie, c'est juste la base du vivre ensemble. Faire en sorte que l'homophobie disparaisse dans le foot, c'est déjà un noble engagement, un noble objectif, mais ce n'est pas juste agiter des questions de société. Vous me diriez, on va parler d'un seul coup de la GPA, ok, c'est un sujet de société. Là, non, on est juste sur le...
Ça, c'est tout à l'heure, ça. Hein.
Oui, on va en parler tout à l'heure. Là, je doute que c'est se méprendre sur le combat des Gilets jaunes. Enfin, je suis persuadé que... résumer les Gilets jaunes à l'homophobie, c'est vrai ça.
Je parle de la climatologie française aujourd'hui.
Mais non, justement, je pense qu'il faut en profiter pour réaffirmer de façon hyper forte ces sujets. Et Emmanuel Macron est très attaché au symbole. Eh bien, justement, le symbole de ne rien laisser passer et que le président de la Fédération française de foot soit démis de ses fonctions dans ce cadre, ce serait un symbole très fort, et un symbole très fort, notamment vis-à-vis de tous les jeunes qui sont dans les clubs de foot. Parce que là, c'est quoi aujourd'hui le message qui reste à la tête des patrons de la fédération? Parce que ça veut dire que dans tous les clubs, tous les juniors, tous les petits jeunes qui font du foot, et ils sont des milliers en France, le message qui est passé, c'est on peut encore avoir des propos homophobes en France. Et donc, s'il n'y a pas une action forte à la tête, dans ce cas-là, l'homophobie continuera. Donc, c'est pour ça que Marlène Schiappa a raison. C'est pour ça que la ministre des Sports a raison. Et c'est pour ça qu'on est un peu là, nous, à parfois, alors je ne parle pas du tout sur ce plateau, mais j'entends sur certains médias parisiens défendre, dire oui, Noël Le Graët, oui, machin, etc. Enfin, la réalité, c'est que, vous le rappeliez tout à l'heure, l'homophobie tue, que les actes homophobes se déploient et que ce n'est pas nous, sur les plateaux télé, ni les parisiens, qui sommes victimes de bastons dans la cour et qui se faisons frapper dans les cours d'école quand on joue au foot.
J'entends vos arguments, par les homophobes. Ils sont très forts, mais j'insiste sur le climat aujourd'hui dans ce pays. Je me tourne vers vous, Albert Zénou. Il y a cet avis, allez, je le cite, plutôt judicieux de Jean-Michel Aulas. L'arrêt des matchs, dit-il, pour des chants ou banderoles homophobes dans les tribunes, doit être utilisé avec modération. Sinon, eh bien, ce sera un jouet utilisé par les supporters. C'est ce que dit donc le président de l'Olympique lyonnais. Attention, risque de dérapage et de la nitroglycérine.
Bon, après ce que vient de dire Romain Mouton, c'est difficile de dire de venir dire oui, il faut pas exagérer. Donc non, bien entendu, il faut condamner. Alors oui, c'est vrai que c'est toute la difficulté. Et bon, j'en reviens au pragmatisme du président. C'est difficile d'arrêter tous les matchs. Tous les jours de match, c'est une contrainte. Alors après, il y a une chose qui est d'autant plus insupportable, c'est quand les insultes sont homophobes ou racistes et s'adressent directement à une personne. Alors c'est vrai que tout ça à prendre avec des pincettes, des précautions d'usage, les chants homophobes ou les banderoles homophobes qui s'en prennent comme ça, c'était terrible. Mais c'est d'autant plus terrible quand s'adresse à une personne. On a vu souvent pour des joueurs noirs, des chants, des cris de singe, des bananes jetées. Là, c'est terrible, c'est inadmissible. Et pareil pour quand ça s'adresse à un joueur en particulier. Oui. Donc, sans faire de relativisme.
Vous dites quoi? Prudence. Attention.
Attention et pragmatisme avant tout.
Non, mais je vois ce que vous voulez nous faire dire.
Le
football est un sport qui est effectivement, bien sûr, extrêmement populaire et qu'on sent donc le
très
président
populaire.
De la République. Qu'on sent le président de la République très prudent quand il s'exprime à ce sport. vis-à-vis de ce sport qui, effectivement, rassemble énormément de Français. Néanmoins, je voudrais juste dire quelque chose. Tout à l'heure, on a fait une analogie qui
très
était intéressante.
Vite, si, Noël
si Noël Le Graët avait tenu des propos ce matin racistes ou antisémites, je pense que toute la classe politique appellerait à sa démission ce soir. Et c'est cette gradation-là qui est insupportable.
Alors, en tous les cas, ce soir, Noël Le Graët et Roxana Maracineanu sont côte à côte dans la tribune officielle au Stade de France avant le France-Andorre. Nous ferons un petit détour par le Stade de France à Saint-Denis tout à l'heure dans la deuxième partie des Informés. Il y aura 28 minutes, ce sera dans quelques minutes après la météo et le rappel de l'info. À tout de suite.
Si je te dis porte blindée et réseau de serrurier agréé, tu me réponds ?
Point fort fichier, bien sûr.
Eh bien, du 3 au 21 septembre, Point fort fichier reprend ton ancienne porte d'appartement ou de maison jusqu'à 700 euros.
Voir conditions en magasin et sur fichier-pointfort.com.
Point fort fichier, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
Politique.
Enquête.
Sport.
Invité.
Culture.
Interview.
Économie. Pour l'info 24 heures sur 24. France Info. Et tout est plus clair. France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants et de gammes respectueuses de l'environnement. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez nos gammes éco-conçues sur pilotepen.fr.
La météo, les prévisions, avec vous Elodie Calac pour Météo France.
Amélioration au sud, demain en Méditerranée, les pluies s'espacent ce soir, il en restera quelques-unes demain matin entre les Pyrénées et le Roussillon, mais le soleil reviendra l'après-midi. Sur les autres régions du sud, vous aurez du soleil dès le matin. De la Bretagne au nord de la Seine, ce sera souvent gris avec parfois quelques pluies éparses. Entre le Poitou, les Pays de la Loire et la région parisienne, quelques brouillards possibles, des nuages élevés de plus en plus épais. Entre le centre et le nord-est, la matinée sera agréable, mais là aussi, ça s'ennuagera bien l'après-midi. Les températures seront parfois fraîches le matin, seulement 3 degrés à Nevers, 4 à Aurillac, 6 à Reims et Limoges, mais 13 à Paris, à Biarritz, 18 à Nice. L'après-midi, 19 degrés à Lille et à Cherbourg, 23 à Paris, Strasbourg, Angers, 24 à Lyon, 25 degrés à Bourges, Bordeaux et Toulouse, 28 à Nîmes et 29 à Ajaccio. Les températures continueront à monter les jours suivants. Le week-end sera estival partout.
Et 30 minutes sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Emmanuel Macron réagit à son tour après les propos de Noël Le Graët, c'était ce matin sur France Info. Le président de la Fédération Française de Football qui demandait aux arbitres de ne plus arrêter les matchs en cas de manifestation ou de banderoles homophobes dans les stades. En déplacement dans un chantier d'insertion de Bonneuil-sur-Marne près de Paris, le chef de l'État estime donc qu'il faut être intraitable sur le fond, que les discours de haine, qu'ils soient raciste ou homophobe cesse et que c'est à la Ligue, aux associations de supporters et aux clubs de prendre leurs responsabilités. Il ne faut pas, dit-il encore, édicter une règle fixe. La composition de la Commission européenne annoncée ce midi à Bruxelles par la nouvelle présidente, l'Allemande Ursula von der Leyen. Parmi les 27 nouveaux commissaires proposés, la Française Sylvie Goulard, nommée pour le portefeuille essentiel du marché intérieur. Mais l'ex-éphémère ministre de la Défense risque d'être un peu chahutée alors que la police enquête en effet en France sur des soupçons d'emploi fictif d'un de ses assistants lorsqu'elle était eurodéputée dans les rangs du Modem, ce qui n'a pas l'air d'entamer ses aspirations européennes. Angélique Boin.
Toute ma vie a été guidée par mon engagement en faveur d'une Union européenne plus ambitieuse, explique dans un communiqué la future commissaire. Et de l'ambition, il va lui en falloir pour gérer le portefeuille qui lui est confié, surveiller le bon fonctionnement du marché unique avec la bonne application des règles et des normes en matière de circulation des biens, par exemple. Mais Sylvie Goulard a aussi en charge la politique industrielle de l'Europe, la défense et le spatial, et un gros chantier technologique, cybersécurité, intelligence artificielle ou encore normes 5G. Mais avant cela, sa candidature doit être validée par les eurodéputés. Ses compétences unanimement reconnues dans les dossiers économiques devraient lui permettre de surmonter l'obstacle, mais elle sera chahutée. Plus que l'affaire des assistants présumés fictifs lorsqu'elle était élue, c'est son activité rémunérée grassement de consultante pour une fondation américaine qui pourrait lui être reprochée. Une activité légale, plutôt tolérée dans le passé, mais qui aujourd'hui fait grincer des dents. À Bruxelles, Angélique Boin, France Info.
Nouveau bilan aux Bahamas où l'ouragan Dorian a fait au moins 50 morts en dévastant l'archipel la semaine dernière. Les secouristes s'attendent à ce que le bilan s'alourdisse encore au fur et à mesure de la découverte de nouveaux cadavres dans les décombres. 70 000 habitants des Bahamas auraient besoin d'une aide d'urgence d'après le programme alimentaire mondial de l'ONU. C'était un monument de la photographie du XXe siècle. L'Américain d'origine suisse Robert Franck est décédé aujourd'hui. Il avait 94 ans. En 1958, il avait frappé les esprits avec son album de photos Les Américains, qui devait profondément influencer les générations suivantes. Du football, et après leur victoire samedi contre l'Albanie, 4-1, les champions du monde français qui doivent s'imposer contre la faible équipe d'Andorre ce soir. Ce sera toujours au Stade de France pour se rapprocher ainsi de l'Euro 2020. Les Bleus qui vont tenter de conserver la tête de leur groupe. Didier Deschamps, toujours privé de plusieurs cadres comme Pogba, Mbappé ou encore Kanté. Le match débute tout à l'heure à 20h45. 20h33 pour l'heure, les informés, ça continue.
20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
Avec Saveria Rojek, journaliste politique, Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice du site laruchemedia.com, Albert Zenou, rédacteur en chef du service politique du Figaro, et Romain Mouton, fondateur de l'agence RM Conseil. Nous entrons dans le vif du sujet de la PMA, le projet de loi examiné aujourd'hui en commission spéciale à l'Assemblée nationale avant le débat en séance publique. Ce sera le 24 septembre. Écoutez cette mise au point claire et nette faite par Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, dans l'hémicycle aujourd'hui lors de la toute première séance des questions au gouvernement.
Je tiens tout d'abord à démentir vigoureusement les informations sur la prétendue intention du gouvernement de reconnaître de manière automatique la filiation des enfants nés de GPA réalisés à l'étranger. La GPA est interdite en France, vous le savez, nous l'avons d'ailleurs réaffirmé avec force hier soir avec mes collègues en commission. Le gouvernement n'entend pas par ailleurs nullement modifier la situation juridique des enfants nés de GPA.
Yasmina Jaffar, pourquoi cette mise au point aujourd'hui ?
Parce que ce matin, il y a eu un couac communicationnel affolant. Et il fallait en effet que cet après-midi, Madame Belloubet soit vraiment bien plus claire. Elle l'est, et heureusement, ça permet de pouvoir se dire que peut-être il n'y a pas
le
que
couac, d'un coup. Le couac,
le couac. Oui, oui, le couac, c'est ce matin d'annoncer qu'il y a une ouverture à la GPA. Ce matin, il y a des...
Pardon, non, c'est pas une ouverture à la GPA, c'est la reconnaissance de la filiation des enfants nés de GPA. Non, c'est pas une reconnaissance de la GPA, les mots sont importants et précis. C'est une reconnaissance de la filiation de ces enfants qui existent. Voilà.
Qui sont des enfants qui naissent et qui n'ont pas de filiation dans l'absolu, pour le fond, pour être alignés avec les autres.
Mais ce que vous voulez dire, Yasmina Jaffar, c'est que cela pouvait créer une forme de confusion dans l'esprit du public.
Exactement.
En fait, ce qui est en train de se passer, moi je l'analyse sous l'angle politique, ce qui est en train de se passer, c'est ce que craignait justement le gouvernement avec le début de l'examen du projet de loi de bioéthique qui comprend donc l'autorisation, l'extension de la PMA, la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, qui comprend absolument pas quoi que ce soit sur la GPA, il faut être précis. Ce que craignait le gouvernement, c'est l'amalgame, la conjonction, la cristallisation des deux débats, et c'est précisément ce qui est en train de se passer.
Maintenant,
il y a bien une circulaire. Le gouvernement est en train de... Il y a un projet de loi de bioéthique qui est examiné à l'Assemblée nationale. Il y a par ailleurs une circulaire qui sera publiée effectivement dans quelques semaines et qui effectivement traite de la reconnaissance de la filiation des enfants qui existent déjà et qui sont nés à l'étranger par la gestation pour autrui.
Pour un mouton, cela concerne entre 2005 et 3000 enfants. Donc ces cas-là seront résolus et ceux à venir également. Il y en a 200 par mois à peu près qui viennent s'ajouter.
Et c'est une excellente nouvelle. Aujourd'hui,
le débat n'est pas clos.
Le débat n'est pas clos. On attend de voir parce que
on attend de voir ce qu'il y a dans la circulaire.
C'était l'énorme piège. Je suis totalement d'accord avec vous. Voilà. À mon sens, il faut bien décorréler les deux choses. Si on veut bien faire passer ce projet de PMA pour toutes les femmes, qui est un projet légitime, etc., il ne faut pas mélanger tout. Et il n'y a rien à voir entre PMA et GPA. Je ne comprends pas. Bien évidemment, j'imagine que c'est des gens qui ne sont pas forcément favorables au projet de loi PMA qui font sortir ce genre d'informations pour bien brouiller les choses et bien agiter les peurs. Là, on parle cette circulaire. Rappelons juste qu'aujourd'hui, en France, on a des milliers d'enfants qui n'ont pas de filiation parce qu'ils sont nés
d'un homme et d'une femme, ou de deux hommes ou de deux femmes, par GPA dans un pays étranger. Et ils arrivent en France et ils n'ont qu'un père, alors que ça a été conçu par deux parents.
Je prends
un exemple très concret, parce que les gens mélangent tout. Aujourd'hui, vous faites un enfant à l'étranger, Jean-François, où vous êtes le père biologique, vous le faites avec une femme qui n'est pas la mère biologique, mais qui est infertile. Vous êtes c'est un projet commun, vous êtes marié, la mère infertile ne peut pas être la mère de l'enfant.
Alors ceci n'est pas une annonce ou une information, je vous rassure. Il se trouve que la gestation pour autrui, la marchandisation des corps, ces arguments-là sont toujours entretenus sur la place publique par la Manif pour tous. Écoutez un court extrait d'une intervention de sa présidente Ludovine de la Rochère.
Ce serait une manière de reconnaître, d'accepter, de normaliser la pratique des mères porteuses. Alors on parle de mères porteuses d'autres pays, mais la dignité des femmes n'a pas de frontières. Qu'elles soient françaises ou d'autres pays, on doit protéger les femmes de toute forme d'exploitation.
Albert Zénou, c'est quand même assez confusionnel. Hein. On ne peut pas non plus contraindre l'opinion de débattre de questions qui ne sont pas forcément contenues dans le texte de loi à venir bioéthique qui concerne la PMA.
Oui, et d'autant que, en fait, c'est la grande crainte de tous les adversaires de la PMA, c'est que la PMA soit la porte ouverte à la GPA. Bon, il y a un continuum idéologique, un continuum juridique qui fait que chacun et tout le monde sait qu'un jour ou l'autre, la GPA sera sans doute installée en France durablement et légalisée. Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a un vrai problème sur l'affiliation. Alors, la circulaire qui est en train de passer, veut donner reconnaître l'affiliation pour les enfants nés de PGP à l'étranger. Ça veut dire que ce qui n'est pas possible en France va être possible à l'étranger. Il faut ceux qui ont la capacité financière d'aller faire un enfant aux États-Unis ou en Inde, et on sait que ça coûte très cher, c'est parfois presque 100 000 euros pour faire un enfant, eux auront le droit à
Donc ces régularisations soulignent une réalité, un état de fait de choses qui sont interdites chez nous mais qui existent ailleurs.
Et d'autant que là, la crainte, c'est de voir réapparaître le débat qui s'est passé pendant le mariage pour tous, où il y avait véritablement une dichotomie, une séparation, une rupture, une fracture entre les Français, et ce que ne veut pas Emmanuel Macron. Il cherche absolument à apaiser. C'est pour ça que je pense que la circulaire, qui est la formation qui est passée ce matin, n'est pas volontaire. D'ailleurs, ils ont fait passer des messages tout au long de la journée pour dire qu'il n'y avait rien à voir. Il fallait apaiser tout ça.
Oui, ça va y rejeter.
Il faut peut-être rappeler aussi que cette reconnaissance de l'affiliation des enfants nés de GPA, c'était aussi une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Le président s'est exprimé pendant la campagne en disant qu'il n'est pas possible de traiter ses enfants comme des étrangers dans leur propre pays. C'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron en 2007 pendant la campagne présidentielle. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, le gouvernement devra trancher et devra s'exprimer, parce que c'est ce que nous demande la Cour européenne des droits de l'homme, qui nous dit la France, notre pays, on ne peut pas laisser ses enfants, ils doivent voir leur filiation reconnue. Donc, dans les semaines qui viennent, le gouvernement devra, trancher.
Il ne reste pas moins qu'il y a un vrai problème de marchandisation du corps de la femme.
Rassurez-vous. Il n'y a aucun rapport avec la filiation des enfants.
On ne parle pas de ça, on parle de filiation d'enfants qui existe aujourd'hui.
Rassurez-vous, le débat revient dans 15 jours à l'Assemblée nationale. 20h40 sur France Info, rappel de l'info avec vous, Jules Dequis.
Je pense que c'est très dangereux de faire une hiérarchie entre l'homophobie et le racisme. Réaction de Lilian Thuram sur France Info au propos de Noël Le Graët. D'après le champion du monde 98, ces deux fléaux, c'est la même chose, c'est de la violence. Et il s'oppose donc à la différence faite par le président de la Fédération française de football. Il s'est dit pour arrêter les matchs en cas de cri raciste, mais il est totalement contre en cas de chant homophobe. Le jour même de sa nomination à la Commission européenne, Sylvie Goulard a dû répondre tout à l'heure aux policiers dans l'affaire des emplois fictifs du MoDem. Le parti centriste est soupçonné d'avoir utilisé des crédits européens pour rémunérer des assistants parlementaires qui étaient en fait au service du parti. Une affaire qui lui a coûté son poste de ministre des Armées au début du quinquennat. Le cessez-le-feu décrété par Moscou n'aura duré que 10 jours. L'Observatoire syrien des droits de l'homme constate de nouvelles frappes aériennes russes sur la province d'Idleb. Les Russes aident le régime syrien à déloger des djihadistes encore dans la zone. Des bombardements qui ont causé la mort de près d'un millier de civils ces 4 derniers mois. Le géant des télécoms espagnol, le groupe Telefonica, annonce un plan de départ volontaire massif. 5000 employés sont concernés en Espagne, tous ceux qui ont plus de 53 ans. Cela représente un cinquième de ses effectifs. Et puis dans 5 minutes maintenant, c'est le coup d'envoi de France-Andorre au Stade de France. Match de qualification à l'Euro de football 2020. La France doit s'imposer contre cette équipe largement à sa portée pour rester en tête de son groupe.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Et justement, comme promis, un détour par le Stade de France où nous vous retrouvons en direct. Cédric Guillou, bonsoir.
Bonsoir Jean-François.
Alors Cédric, le monde du foot est-il derrière Noël Le Graët?
Oui, il a reçu, le président de la Fédération française de football, un fort soutien des acteurs qui ont en tout cas souhaité s'exprimer après la déclaration de ce matin sur France Info. Bernard Caillazeau, qui est le co-président de la Saint-Etienne, mais qui est surtout le président du syndicat Première Ligue, c'est-à-dire le syndicat qui représente les clubs professionnels. Et bien Bernard Caillazeau, il a apporté un soutien sans faille à Noël Le Graët. Arrêter les matchs, ça ne sert à rien, a-t-il dit, ajoutant que le président de la Fédération française de football est un homme compétent qu'il faut écouter, et il a raison, dit Bernard Caillazeau, de faire la différence entre racisme et homophobie. Alors on a Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, qui est un petit peu plus modéré. On peut arrêter des matchs, il dit, mais seulement dans certains cas extrêmes, il faut appliquer cela avec modération, autrement ce sera un jouet utilisé par les groupes de supporters. Alors ce qui est sûr aussi, Jean-François, c'est que cette prise de position de Noël Le Graët va faire bouger les choses avec le gouvernement, parce que Roxana Maracineanu, qui ne devait pas venir ce soir au Stade de France, elle est là et elle est aux côtés de Noël Le Graët. Alors Emmanuel Macron pourrait arriver en cours de match, sachant qu'il était en région parisienne aujourd'hui, mais ça fait huit mois que le dossier entre le gouvernement et les instance du football français est sur la table. Il n'y a eu aucune avancée, mais là on sent quand même d'un côté comme de l'autre qu'il y a urgence à se poser autour d'une table plutôt que de se répondre, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines, par médias interposés.
Merci à vous Cédric Guillou pour ces précisions et puis cette description de cette affiche. Merci à vous et surtout bonne rencontre ce soir. On attend vos commentaires. Je me tourne vers vous, Romain Mouton. Intouchable, disais-je tout à l'heure, Noël Le Graët. C'est une confirmation.
Bien sûr, c'est une corporation. Ils se tiennent entre eux. Ils se sont placés entre eux sur les postes au pouvoir, et c'est une sorte de lobby qui se tient,
qui marchande, quand
etc.
Même,
ouais. Mais bien sûr, ils se tiennent tous entre eux depuis des années. Je suis étonné que Noël Le Graët, qui est pourtant quand même socialiste, hein, à la base, rappelons-nous, il était quand même maire socialiste, tienne aussi des propos de ce genre-là.
On va refaire le débat. Mais
on va pas refaire le débat.
C'est juste pour commenter l'affiche, ce soir.
Oui, et juste un point. Pourquoi il faut interdire ces matchs et pourquoi il faut mettre à l'amende les clubs? Parce qu'ils ont des millions d'euros et qu'ils ont les moyens d'identifier les homophobes et de lancer des campagnes de lutte contre l'homophobie. Foot a les moyens de lutter contre l'homophobie. Il suffit maintenant juste de la bonne volonté.
Ah, le message de Romain Mouton. Dernier commentaire, Albert Zenou. Cet affichage de la ministre, vos soutiens selon vous?
Non, pas soutien. Non, je pense qu'elle vient montrer.
Elle marque le terrain. Allez, nous allons du côté de Bruxelles à présent avec cette curieuse entrée en matière. La présidente de l'exécutif européen Ursula von der Leyen, qui a annoncé la composition très attendue, du moins à Bruxelles, de son équipe chargée de relever les défis européens. Mais l'une des commissaires, Sylvie Goulard, désignée par Emmanuel Macron, qui hérite du portefeuille du marché intérieur, a été attendue par les policiers qui enquêtent, Jules de Kiss le rappelait tout à l'heure, sur les soupçons d'emploi fictif du MoDem au Parlement européen. Yasmina Jaffar, curieux hasard de calendrier tout de même.
Oui, c'est le chaud et froid. Elle a une journée émotionnelle un peu compliqué. En effet, c'est vrai que là, le président de la République va être content, parce que pendant la campagne européenne, il avait envie qu'il y ait des postes importants tenus par des Français, c'est le cas, mais en effet, là, le calendrier fait qu'elle est aussi entendue de l'autre côté. Donc, ça rappelle qu'il y a eu...
Un petit côté machine infernale.
Elle est un peu prise dans le système, comme on peut dire, dans le système américain.
Ça vient rejec.
Je ne sais pas si elle est prise dans le système, parce que pour le coup, il y a une véritable affaire. Il faut rappeler quand même les faits. Sylvie Goulard, elle a remboursé 45 000 euros au Parlement européen pour clore l'enquête au sein du Parlement dans cette affaire. Parallèlement, il y a la justice pénale française qui continue d'enquêter. Vous parliez tout à l'heure de curieux hasard. J'ai envie de dire aussi curieux choix d'Emmanuel Macron, du président de la République. Parce que par ailleurs, politiquement, c'est aussi un choix. J'allais dire, c'est une mauvaise manière qui est faite à François Bayrou et Marielle Le Sénat, parce qu'on connaît l'inimitié entre François Bayrou et Sylvie Goulard est connue. Sylvie Goulard avait dû quitter le gouvernement au bout d'un mois en 2017 suite aux révélations dans cette affaire. Et elle a quitté le MoDem également. Mmh. Donc c'est aussi curieux choix politique de la part du président de la République.
Il doit faire des bons, François Bayrou, ce soir.
Oui, ça, je pense qu'il
ça, c'est sûr. Ça fait un moment qu'il fait des bons.
Quand on est remonté, on fait de gros bons. Je pense que effectivement, c'est un curieux choix. Alors après,
un risque.
Alors, est-ce que le président savait que toutes les poursuites étaient éteintes ou pas? Enfin, c'est ça la difficulté. On nomme à la tête de la commission.
Je rappelle que la justice est indépendante et souveraine.
Sans doute. Mais est-ce qu'il a eu accès à des décisions qui ne sont pas encore connues de justice? En tous les cas, la convocation ce matin devant les policiers dans la brigade de Nanterre sonne comme un rappel de toute la difficulté d'avoir nommé Sylvie Goulard à la tête de la commission.
Et pendant ce temps, la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, s'est exprimée sur le Brexit.
Le Brexit, nous ne l'avons jamais voulu, mais nous respectons la décision prise par nos amis britanniques, par le Royaume-Uni. Le Brexit, s'il se produit, n'est pas la fin de quelque chose, mais c'est le début d'une relation future.
Oui, Yasmina Jaffar, la principale difficulté, ce n'est pas le cas de Sylvie Goulard, c'est quand même ce qui se passe à Londres.
Oui, complètement. Il faut essayer de régler cette problématique assez vite, parce que là, c'est assez, assez compliqué, le Brexit, mais là encore plus, parce qu'il y a un désaveu total par rapport à ce sujet. Donc ça amène une autre difficulté au débat européen.
Oui, Romain Mouton.
Que Sylvie Goulard soit brillante, c'est incontestable. Qu'elle soit experte sur les questions européennes, c'est incontestable. Par contre, le choix, alors qu'elle n'est pas totalement soldée sur les questions judiciaires, c'est quand même un risque pour Emmanuel Macron. Et c'est d'autant plus dommage, après la première séquence qu'on avait eue avec l'installation des députés européens au Parlement, on avait déjà eu une polémique sur Nathalie Loiseau et ses déclarations, etc. Donc ça fait deux starting blocks, deux structures européennes, le Parlement, maintenant la Commission, où la France est affaiblie. Heureusement pour Emmanuel Macron qu'il a le leadership en Europe et qu'il a juste sur sa personne, parce qu'il incarne, déjà il est en tête et en Europe, mais si derrière lui ça suit pas et qu'il a à chaque fois des boulets qui font soit des gaffes dans les médias, soit qui sont rattrapés par des affaires judiciaires, il y a un moment donné où c'est lui qui va être impacté, donc
il
faut être vigilant.
Parce qu'il faut rappeler le calendrier, ça va y avoir rejet, tiens au hasard, les 27 commissaires entrent en piste, c'est le 1er novembre, si l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne sort, si elle Brexit, dur ou pas dur, et il faut qu'ils obtiennent, les commissaires, le feu vert des eurodéputés, donc ils vont la juger sur pièce.
Absolument, absolument. Je voulais dire très rapidement ce que je retiens aussi dans cette nouvelle commission qui a été dévoilée aujourd'hui, il y a une polémique sur le nom du nouveau portefeuille à l'immigration. Le nom qui a été donné donc par cette nouvelle commission, c'est protection du mode de vie européen. La gauche, elle est immédiatement montée au créneau aujourd'hui, et à mon sens, a raison, je trouve ça extrêmement mal à propos si ce n'est populaire. D'autant plus que les questions migratoires, c'est un des plus grands enjeux auxquels doit faire face l'Europe aujourd'hui.
Mais Albert Zenou, sur ce démarrage de cette nouvelle commission, compliqué quand même ce climat, avec empoisonné par ce Brexit.
Ah, ça, c'est sûr que le Brexit n'aide pas à la constitution sereine d'une nouvelle commission. Je reviens sur ce que vient de dire Sylvie Rojec. Le nouveau nom, c'est aussi donner sa pleine mesure à l'orientalisation de l'Europe. Les pays de l'Est sont rentrés, font pleinement partie maintenant de l'Europe. Il y a une montée en puissance des populismes. Il y a une montée en puissance d'une partie de la droite identitaire.
Ouais. Donc il faut en tenir compte.
Il faut protéger le mode de vie. Après qu'il soit européen ou pas, il faut les protéger. Donc ça revient. Non, ouais. Sans vouloir faire de polémique. Ça illustre bien la volonté d'une partie de l'Europe de se réconcilier avec elle-même.
20h50 minutes sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules De Kiss.
On joue depuis 5 minutes à peine entre la France et Andorre au Stade de France. Et il y a toujours 0-0 entre les deux équipes qui s'affrontent en match éliminatoire pour l'Euro 2020 de football. Les personnels des urgences en grève depuis plus de 6 mois votent pour la poursuite du mouvement. Ils se sont réunis en Assemblée Générale 24 heures après les annonces de la ministre de la Santé pour mettre fin à cette crise. Et elle promet 750 millions d'euros et une réorganisation des services pour les soulager. Mais cela laisse les grévistes sceptiques, notamment parce qu'ils n'ont pas eu gain de cause sur les salaires et les embauches. La GPA demeurera un interdit absolu, assure la ministre de la Justice. On ne pourra pas avoir recours à une mère porteuse en France, insiste Nicole Belloubet, alors que la loi de bioéthique arrive au Parlement. En revanche, France Info vous le révèle depuis ce matin, le gouvernement souhaite reconnaître la filiation des enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger. Il va rédiger une circulaire en ce sens d'ici la fin du mois. Donald Trump se sépare de son conseiller à la sécurité nationale. John Bolton démissionne à sa demande à cause de multiples désaccords. Le président américain nommera son successeur la semaine prochaine. Ce serait une rencontre symbolique aux enjeux sportifs et historiques. La Fédération algérienne de football propose d'organiser un match amical contre la France dans un peu plus d'un an, en octobre 2020. La Fédération française y est favorable et si ce match a bien lieu, ce serait le deuxième qui oppose ces deux nations.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Et soudain, Emmanuel Macron nous fit revivre le grand débat national. Cela s'est passé aujourd'hui à Bonneuil-sur-Marne, c'est en grande région parisienne, dans le Val-de-Marne, dans un chantier d'insertion par l'activité économique, aux côtés de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Visite de terrain qui s'est achevée par un débat public, à l'image de ceux qui se sont succédés au printemps dernier pour tenter d'arrêter ou d'enrayer la crise des Gilets jaunes. Court extrait.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'avoir les exemples de blocages très concrets. Je vais y revenir et vous répondre. Et donc, je suis, moi, prêt à ce qu'on prenne le temps. S'il y a des compléments que vous souhaitez apporter sur des blocages, je vois Monsieur le maire, ça m'intéresse beaucoup parce qu'il est une commune où dont on évoquait les difficultés. Je suis tout à fait prêt à ce qu'on prenne un peu plus de temps pour qu'il puisse y avoir quelques prises de parole qui évoquent difficultés, blocages, sujets concrets, ce qu'on peut faire encore mieux. Donc, Je vous donne cette carte blanche, je prends sur mon temps, si je puis dire.
Voilà donc cet extrait de ce débat à Bonneuil-sur-Marne. Je précise pour ceux qui nous écoutent sur France Info à la radio que le chef de l'État était entouré de personnes qui portaient des gilets orange. Les uns et les autres ont dû être assez prudents avec les gilets en question. Yasmina Jaffar, c'est désormais la norme. Aujourd'hui, c'est tout est débat.
Tout est débat et en tout cas, il a compris que ça lui avait réussi il y a quelques mois. Là, c'est un peu pris de court parce que nous n'étions pas forcément au courant. Il a dit « la part humaine fait qu'on ne désespère jamais ». En parlant des accidents de la vie, de la difficulté de retourner au travail quand on a vécu une longue période de chômage. C'est une situation complètement hallucinante dans ce pays depuis 40 ans. Personne n'a fait ce qu'il fallait pour que ça s'arrange. Et je trouve intéressant aujourd'hui, même si ça prend cette forme-là qui est parfois un petit peu clownesque. De mettre les choses sur la table. Oui, parce que à force d'utiliser cette façon de faire, il peut l'abîmer, cette façon de faire. C'est intéressant parce que c'est pour ça que j'ai repris ces mots. Quand il parle, il dit des choses concrètes et il annonce que l'entreprise et le mot de l'entrepreneuriat ne doit pas être simplement considéré pour la start-up ou l'entreprise. Mais tout le monde doit aujourd'hui réinventer son emploi parce que nous sommes un petit peu dans des grandes difficultés de chômage et on n'arrive pas à revenir à l'emploi quand on a connu des longues périodes de chômage et quand on est au RSA. Donc il parle des choses avec chose. Et il faut absolument en parler. Maintenant, il ne faut pas trop utiliser cette formule-là.
Vous n'êtes pas d'accord, vous, parce que ça sera trop de débat, comme dit Yasmina Jaffar.
Ça a marché.
Oui, ça marche.
Ça a marché. Voilà. Pourquoi s'en priver? Donc après, jusqu'à l'agacement peut-être, je ne sais pas. Voilà. Mais, en tous les cas, il y a une chose est sûre, c'est qu'on voit que lui qui a été moqué comme le président des riches, comme s'adressant, qu'en ne voulant aujourd'hui qu'aller capter l'électorat de droite qui lui avait en partie fait défaut et que la gauche, l'électorat de gauche s'en était retourné dans ses pénates. Là, on voit très bien que là, il ouvre une séquence sociale et il parle à un électorat qui, a priori, ne lui est pas très favorable naturellement. Effectivement, il y a des gilets oranges, c'est presque jaune. On voit bien l'allusion. Il est sur la thématique de la réinsertion par le travail. Enfin, il y a une volonté d'aller chercher et de réconcilier une partie, la France d'en bas et la France d'en haut. Lui qui était, qui est présenté comme étant le représentant de la France d'en haut. Là, on voit bien que...
Président des riches.
Président des riches, donc il veut trouver quelque chose. Alors c'est très bien d'aller chercher cet électorat-là. C'est très bien aussi de donner la possibilité à ceux qui ont des accidents de la vie de retrouver une dignité par le travail.
Mais en leur parlant les yeux dans les yeux, c'est ça qui est intéressant avec cette méthode. C'est la première fois que c'est fait.
Au passage, il y a eu une annonce concernant l'IAE. Le budget va passer la barre du milliard d'euros pour amener 20 000 personnes justement vers l'emploi. Romain Mouton, c'est la bonne méthode?
En tout cas, c'est la bonne méthode.
Mais aussi sévère que Yasmina Jaffar qui disait clownesque tout à l'heure.
Je trouve pas ça clownesque. Je trouve que un président qui écoute les Français, pour moi, c'est, ça n'inspire que le respect et l'attention. Par contre, il faut que derrière il y ait des actes en parallèle. C'est-à-dire que on ne peut pas rester dans une séquence en permanence où Emmanuel Macron est dans l'écoute, le débat, l'ouverture des débats sur tous les sujets, etc. C'est-à-dire qu'en parallèle, si il souhaite garder sa popularité auprès notamment d'un électorat de droite qui vote majoritairement pour lui, il va falloir continuer les réformes, d'autant que le temps est compté. Alors certes, ouais, il y a les municipales qui ont une échéance, mais l'écoute d'un côté, oui, mais l'action de l'autre qui est indispensable.
Et ça revient à Rojek, les débats tous azimuts, les retraites, les pesticides, l'emploi, il ouais, faut que ça avance quand même.
C'est déjà ce que nous a dit même Gérald Darmanin sur les retraites. On peut s'attendre à un grand débat maintenant, désormais, sur tous les sujets. Je suis assez d'accord à ce que vous disiez, c'est que cette mise en scène, elle peut tendance à avoir... Elle va finir par obérer le fond, effectivement, le fond des dossiers.
Ou simplement
le
faire
fond
partie
d'insertion
du décor.
Maintenant, tout simplement, voilà, et tout simplement, ça qu'on assise, vous avez raison, c'est l'acte 2 du quinquennat, c'est un président plus social, plus à l'écoute. Et toute cette volonté, elle est assumée par l'Élysée. On dit désormais, on veut que les Français décident avec le président. Voilà, c'est une volonté assumée de l'Élysée, de ce président plus à l'écoute. Et effectivement, c'est aussi l'acte 2 du grand débat. C'est une mise en scène qui a marché, une symbolique qui a marché.
Allez, la une du Figaro avec vous, Albert Zenou, demain. Bah,
puisqu'on en parlait sur la loi bioéthique, la GPA qui sème le trouble.
Ah ben voilà, la GPA. Et que nous proposez-vous sur La Ruche Média?
Une interview d'Isabelle Laurence, fondatrice de Maman Solo, PMA, et un témoignage total qui nous explique qu'est-ce que la PMA.
Allez, ce soir c'est France en dehors, en cours. Merci Savaïa Rojek, Yasmina Jaffar, merci. Albert Zenou et Romain Mouton d'avoir participé à ces informés très foot. À demain, pour ma part, pour une toute nouvelle édition. Oh, édition. Eh oui, sur France Info. Bonne soirée à tous.